On vous propose de garder vos questions pour l'issue de l'intervention donc de Florence Marquerolles, que vous venez de voir à l'instant sur l'écran, qui est donc responsable du service des publics et du programme culturel à la Galerie, donc le Centre d'art contemporain de Noisy-le-Sec, où Émilie Renard a donc officié pendant quelques années.
Bonjour. Merci Émilie pour ce souvenir. Pour ton intervention. Je voulais remercier évidemment ACB et le PREAC pour cette invitation et notamment pour cette question, comment les œuvres peuvent-elles être support et matière à la production de récits de transmission ? C'est intéressant parce que quand on est à la médiation, je pense que la plupart des collègues le savent, on a souvent la tête dans le guidon, on a peu l'occasion de venir réfléchir sur nos pratiques. Et j'avoue que ça m'a beaucoup interrogée, notamment dans la façon dont ce discours de médiation, finalement, se construisait et comment cette valeur, finalement, narrative, pas forcément fictionnelle, mais en tout cas du récit, était constamment présent dans... dans notre relation au public, et est un facteur important pour créer les conditions en fait, de cette rencontre entre des œuvres, des artistes et des visiteurs. La position du médiateur, en fait, très vite, j'ai pensé à un terme qui définissait, en tout cas, la position du médiateur, mais en tout cas, ma position. Est-ce que vous pouvez m'évoquer cette notion du récit dans la transmission, qui est celui de la loyauté, une notion sur laquelle nous avons été amenés à réfléchir lors des journées professionnelles organisées par BLA, l'Association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain, à la Villa Arson à Nice en juillet, puisque la philosophe Géraldine Gourbe, qui était invitée à réfléchir avec nous plus sur des questions d'attention et de soins, a dégagé 5 à 7 axes principaux autour de nos métiers qu'il nous fallait approfondir à partir en fait d'échanges qu'elle avait eu, enfin d'échanges qu'on a eu entre nous, entre professionnels. Et cette question de la loyauté, elle me semblait importante parce qu'elle nous place en tant que médiateur dans un réseau de relations assez complexe puisque le médiateur représente l'institution. Il est son visage auprès des publics et des partenaires. Il représente, en tout cas, il est porteur du discours curatorial qu'il doit du coup s'approprier également pour pouvoir le transmettre, celui de l'artiste et aussi, très important, la loyauté aussi, je dirais, aux visiteurs et au public auquel il va transmettre et c'était bien dit ce matin, c'est vrai que cette attention au public, à la personne à laquelle on va transmettre, fait toute cette particularité aussi, à mon sens, du métier de médiateur, dans le sens où il y a vraiment une idée de ne pas instrumentaliser, d'avoir une déhiérarchisation dans la transmission, d'être aussi à l'écoute et du public, mais aussi de ne pas enfermer les œuvres dans un propos et de garder cette perméabilité et cette ouverture. Ce terme de loyauté, je le trouvais assez intéressant aussi parce qu'il positionne, en fait, en tout cas, il me positionne dans une question, dans une réflexion d'éthique au regard de ces différents interlocuteurs au sein de ce réseau. Et donc, c'est le fil conducteur que j'ai choisi pour cette intervention. Donc, je vais plutôt commencer par un exemple. Ah, mince, j'ai perdu. Tout était bien, mais hop, il n'est pas loin. Je voulais du coup commencer parce qu'effectivement, cet objet curatorial ou d'œuvre peut être très variable. Et donc, j'ai commencé plutôt par une œuvre, une exposition assez classique, si l'on peut dire, qui a un potentiel narratif en lui-même, puisqu'il s'agissait d'une exposition de 2004 qui s'appelait « The truth will be known when the last witness is dead », qui était une exposition rassemblant des pièces de l'Atlas Group, Walid Rahan, avec des choses issues en fait de ce site, je ne sais pas ouais, si vous voyez, mais ça va, qui est un site en fait d'archives constitué par l'Atlas Group. Et je voulais vous parler en particulier, qui se divise en trois types. Vous avez les types A qui sont des types d'archives avec auteur, les types FD qui sont des documents trouvés et les type AGP, qui ont été constitués par l'Atlas Group. Donc moi, j'ai choisi de vous parler des archives de l'auteur qui s'appelle le docteur Fakouri. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, on va aller voir sur les... Donc qui est le docteur Fakouri, donc, qui est l'auteur de ces archives, qui est un historien éminent libanais, décédé donc en 1993, qui est donc... un historien spécialiste des guerres du Liban et qui a légué aux archives des carnets, des photographies. Et du coup, je voulais vous montrer, puisqu'il s'agit de photographies qui sont des portraits de ce fameux docteur Fakouri en voyage en Europe. Voilà, on en a plusieurs. Hop. Je vous en montre deux, trois pour que vous fassiez sa connaissance. Voilà, le docteur Fakouri. Et puis, des films. Alors, je vous invite à aller voir. Je me suis plutôt concentrée sur un carnet spécifique du docteur Fakouri qui s'appelle, dans les Fakouri Files, qui s'appelle Missing Lebanese Wars. Et vous allez voir... Hop, c'est pas celui-ci, c'est Forward, c'est celui-ci. Missing Lebanese. Et donc je vous montre un extrait de ces carnets, donc qui était présent dans l'exposition, donc qui reprend en fait une photographie d'un cheval de course, et le petit texte nous indique que ces carnets correspondent en fait, enfin retracent l'histoire des différents historiens libanais de différentes obédiences. Le Liban regroupe, je crois, une douzaine d'obédiences culturelles et religieuses. Et donc, chacun de ces historiens, enfin, de ces obédiences, avait tous la passion du jeu et de la course de chevaux. Et donc, chacun pariait. Alors... évidemment sur les chevaux gagnants, mais surtout ce qui nous intéresse ici, ce que vous pouvez voir à l'image, c'est qu'on a donc le cheval, s'il s'agit là de la ligne d'arrivée, et ces historiens demandaient à ce qu'il y ait chaque fois qu'une seule preuve, qu'une seule photographie prise de cette ligne d'arrivée, et en fait chacun pariait sur la distance entre le cheval et la ligne d'arrivée. Je trouvais ça tout à fait pertinent dans cette idée du récit, et notamment à l'époque, en tant que, quand je devais parler évidemment au public de ces questions-là, puisque ça induit déjà en fait une certaine, dans cette question de l'histoire, avec un grand H pour le coup, dans cette transmission et cette réflexion sur l'histoire, cela... indique aussi que cette preuve historique est déjà en soi-même assez floue et relative. Et je pense que ce n'est pas un hasard si ce sont des historiens qui mènent cette réflexion. Et je trouvais que c'était une assez belle métaphore, finalement, de cet écart entre la manière dont on peut raconter des histoires, la manière dont, finalement, un récit... presque fictionnel, peut parfois dévoiler beaucoup plus d'une complexité des choses que si on avait présenté, par exemple, juste une chronologie ou des textes, et prendre la mesure de tout cet écart et aussi de ce flou, ou en tout cas de la façon de cette subjectivité, finalement, de l'interprétation des événements. Alors, d'autant plus que, et peut-être vous vous en êtes douté, ce docteur Fakouri est une invention complète de l'artiste. Alors là, je vous le dévoile comme ça, un peu, but en blanc. Mais en tant que médiatrice, pour accompagner cette exposition-là, j'ai dû à l'époque énormément travailler, évidemment, sur le fait historique pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce conflit, qui est extrêmement complexe, pour pouvoir recontextualiser et comprendre toutes les subtilités de ces archives fictionnelles. Tout en gardant ce suspense, en tout cas ce mystère, sur, et cette ambiguïté sur le fait qu'elle soit fictionnelle ou non, ce qui pouvait parfois être compliqué. Et pour cela, la notion de suspension volontaire de la crédulité, développé entre autres par Coleridge, m'était assez utile, puisque, d'une certaine façon, je pense que le public et moi-même, en tout cas pour ce concernant les adultes, nous savions quelque part, et il était plus ou moins admis, sans que évidemment, on était dans des œuvres, parce que là, ça paraît quand même assez absurde, voilà, qu'il y avait cette... Du coup, nous devions presque complices de ce fait... au travers de cette œuvre, ce qui, évidemment, avec les enfants, est beaucoup plus délicat, peut-être, et là, du coup, de savoir comment... Enfin, on arrive plus facilement, peut-être, à emmener des enfants dans des histoires de ce type. Ça peut poser aussi peut-être plus de questions, de savoir qu'est-ce qu'on leur dévoile, comment est-ce que cette suspension... critique, puisque eux n'ont pas encore forcément acquis cette critique, comment est-ce qu'on pouvait négocier aussi avec ça. Voilà. Donc ça, c'était une première expérience qui me semblait assez classique, finalement, puisque là, l'œuvre en elle-même portait ce récit, et déjà posait quand même cette question de la subjectivité, enfin de ma propre subjectivité, de mon positionnement dans ces histoires, et de comment je pouvais être relais, m'approprier et transmettre ce récit-là. Le deuxième exemple... dont je voulais parler avec vous, est issu de l'exposition dont parlait Émilie, qui était main dans mes chaussures. Et c'est une expérience que nous avons vécue avec l'artiste Béatrice Balcou, dont vous pouvez voir ici des images. Donc, voilà. Il s'agit d'œuvres, d'une série d'œuvres, pardon, qui s'appelle... The Kazuko Miyamoto Boxes, qui date de 2016. Et donc, dans ces boîtes que vous pouvez percevoir, l'artiste a réalisé ses maquettes en bois, enfin, ou en tout cas des doubles en bois, d'œuvres de cet artiste, Kazuko Miyamoto, qui est une artiste conceptuelle, qui a aussi été l'assistante de Sol Lewitt, et dont les œuvres étaient... en partie, vu qu'il s'agissait d'œuvres conceptuelles faites souvent dans des matériaux assez fragiles, la plupart en fait de ces œuvres n'existent plus. Béatrice Balcou a entrepris un peu une espèce d'œuvre de, si je puis dire, de mémoire, hein, en reconstituant ces œuvres en miniature, en tout cas, mais dans un matériau pérenne puisqu'il s'agit de bois. Pour nous en retransmettre cette histoire. Alors, ce qui nous intéresse là, en l'occurrence, c'est que ces œuvres racontent une histoire portée par une artiste au sujet d'une autre artiste et relatent une expérience personnelle, sachant que Béatrice Balcou a elle-même rencontré Kazuko Miyamoto et a même été, pas forcément son assistante, mais a été amenée à reproduire, ou en tout cas à refaire dans des institutions muséales, des pièces de cet artiste, guidées par elle, puisqu'il s'agit de pièces conceptuelles. Elle en avait le protocole. Sur cette exposition, Émilie l'a dit, l'idée c'était de décaler aussi, ou en tout cas d'interroger nos pratiques. Ici, au niveau de la médiation, Béatrice Balcou avait peu envie, parce qu'on avait fait des fiches de médiation, et elle n'avait pas forcément envie qu'il y ait une parole de l'artiste, ou en tout cas qu'il y ait presque encore du discours sur ses écrits et figés en fait, autour de ses œuvres. Mais ce qu'elle nous a proposé, c'est pendant 2 heures de rassembler l'équipe en charge de la médiation, de nous raconter tout ce qu'elle savait ou tout ce dont elle avait envie autour de ses pièces. Donc assez long, assez riche en anecdotes, en détails, avec comme... je dirais, comme contrainte de ne pas prendre de notes. Donc, on devait vraiment pas prendre de notes de ces 2 heures. Et finalement, j'essaie de vous en remonter d'autres. Et de finalement, notre récit, en fait, enfin, l'artiste validait aussi l'idée que finalement, ce qu'on allait raconter de ces pièces pouvait être complètement partiel. Voire complètement inventé. En tout cas, c'est une idée qui l'intéressait beaucoup, de se dire que chaque membre de l'équipe allait être dépositaire finalement d'un récit, mais qu'il allait s'approprier, retransmettre au public, qui eux-mêmes allaient pouvoir alimenter et peut-être imaginer d'autres choses. Ce qui était assez intéressant, c'est quand on faisait des visites à plusieurs médiateurs, ce qui peut arriver, on n'avait évidemment pas forcément les mêmes... des informations où il y avait des variantes. Je pense que on a été aussi amené à inventer des choses ou à les imaginer en tout cas. Et ce qui était complètement intégré à l'œuvre et ce qui fait partie du processus d'accompagnement de l'œuvre. Cette question de la subjectivité de la médiation, je la trouve en tout cas. En tant que médiateur, comment est-ce qu'on peut non seulement être, comme je disais, enfin transmettre un discours curatorial ou d'un artiste, mais comment on peut se positionner aussi, puisque dans ce réseau de loyauté, là, celle à l'artiste est respectée, puisqu'on a son autorisation, d'une certaine façon. Comment est-ce que soi-même, on n'est pas non plus en contradiction lorsqu'on déroule évidemment un propos Voilà. J'avance un peu vite. Une autre pièce de Béatrice Balcou, toujours dans Tes mains dans mes chaussures, donc qui s'appelle. Hop. Pourquoi j'ai. Ah oui, pardon. Je voulais quand même vous montrer. Éteindre la publication, voilà. Qui s'appelle donc Conceptual Work Protocol as the Guardian 2017. Donc c'est l'œuvre qui est ici là, donc qui prend en compte donc ces deux photographies noir et blanc, voilà, que l'on voit là, et auquel était assortie une boîte à archives qui j'ai du mal à vous les passer. Voilà, étant la publication, cette boîte d'archives, donc vous voyez là donc les deux photographies, et cette boîte d'archives dont était dépositaire du coup l'équipe du Centre d'art, qui regroupait en fait la genèse de l'œuvre, puisque ces deux photographies ont été données à Béatrice Balcou par une conservatrice d'un musée du Luxembourg pour qu'elles deviennent des œuvres conceptuelles. Donc il y a tous les échanges de mails, enfin en tout cas cette genèse du don. Ces œuvres ont été restaurées, donc les échanges avec la conservatrice et la manière dont elle a pu restaurer, la charte de la restauration. Donc des échanges de courriers, je dirais, de caractère institutionnel, qui reconstituent donc cette genèse et le contexte d'élaboration de l'œuvre. Mais cette boîte était également faite pour accueillir différents textes ou réactions des visiteurs. Et là, vous avez donc un visiteur qui s'appelle Bruno Blanche, qui a écrit un texte et qui a présenté cette pièce, notamment lors d'événements qui s'appelaient les visites à plusieurs voix que nous organisions, où la parole était donnée en fait à des visiteurs un peu assidus que l'on identifiait ou qui avaient quelque chose à dire de précis ou pas d'ailleurs sur des œuvres. Et donc Bruno Blanche avait choisi cette œuvre. Et a même choisi d'en faire presque une performance. Et je vous ai mis là le texte. Peut-être je peux vous lire un tout petit extrait. Voilà, là. Si Béatrice Balcou n'est ni l'auteur ni la restauratrice, elle a pourtant rencontré ses œuvres et certainement choisi ses œuvres parmi celles détenues par le musée d'histoire de la ville de Luxembourg. C'est Gisèle Reuter, la responsable de la conservation et de la restauration de ce musée, qui a fait visiter à Béatrice Balcou les collections et les réserves, certainement au printemps 2014. À l'été 2014, Gisèle Reuter a mis à côté, pendant le rangement de la réserve du musée, ces deux grandes reproductions encadrées qu'avait remarquées Béatrice Balcou durant sa visite. Elles se sont fixées un rendez-vous pour déjeuner ensemble le 8 septembre 2014 chez Oberweis à la Grande Rue vers 12h30, près de l'entrée du magasin. C'est le 10 septembre qu'est attesté le don du musée d'histoire de la ville de Luxembourg à Béatrice Balcou des deux photos afin qu'elle puisse les intégrer dans un de ses prochaines œuvres conceptuelles. C'est le cas ici, à la galerie de Noisy-le-Sec, comme vous pouvez le constater. Je vous lis le cartel, veuillez excuser mon accent. C'est en partie en luxembourgeois, je cite, « Conceptuel Werk Protocol as the Guardian 2017 ». Deux photographies et une boîte d'archives. Dans cette pièce, il y a deux choses qui m'intéressaient de partager avec vous aujourd'hui, notamment le fait de cette boîte d'archives. En discutant avec ma collègue qui prend en charge les médiations, Clio Rateron, il nous est apparu que finalement, elle était une bonne métaphore aussi de la façon dont le médiateur se trouvait au centre d'un réseau de récits et d'échanges critiques. Puisque on retrouve, comme je vous l'ai dit, donc à la fois les discours institutionnels, curatoriaux, mais aussi toutes ces productions de récits et d'échanges qui émanent des publics et des visiteurs, enfants et adultes, dont le médiateur, à force de vivre dans l'exposition, en tout cas de la faire vivre aussi d'échanger, enfin d'accompagner cette expérience artistique et esthétique, finalement se charge de toutes ces rencontres, de tous ces récits, et devient en quelque sorte un peu un dépositaire qui peut faire une synthèse de tout ce qu'il a pu entendre également. Sachant que, enfin, en tout cas, il m'arrive assez souvent si je suis dans une médiation individuelle ou même collective, que ce soit avec des enfants ou des adultes, en tout cas, pour moi, enfin, le positionnement, si le discours change, le positionnement ne change pas tellement, quel que soit le public qu'on a en face. C'est de raconter aussi des choses qu'on m'a racontées et qui permettent de faire rebondir, d'alimenter une conversation et finalement, dans cet échange, d'aller peut-être au-delà de ce qui était prévu initialement ou en tout cas d'ouvrir des nouvelles perspectives et du coup de laisser aussi une existence critique et un retour au visiteur et de lui laisser toute sa place. Je cherche l'heure, j'ai pas l'heure. Je sais pas combien de temps j'ai encore. J'ai que 5 minutes ? Ah oui, ok. Je pensais que ça allait. Alors du coup, je vais aller directement dans cette continuité-là à Violaine Lechu, donc toujours dans l'exposition Tes mains dans mes chaussures. Puisque donc ce projet qui s'appelle Superformer, donc vous avez déjà vu un extrait du premier volet. Moi, je voulais vous en montrer un autre, et je vous en parle après. Je vous laisse découvrir. Je sais pas si. Ah. J'ai pas le son. Ah, c'est... Oui ? OK.
Je pense qu'on est tous débordés. Hein. Donc, avec un petit peu d'organisation, je pense que ça va le faire.
Je dois mettre à jour mes dossiers, prendre rendez-vous chez le médecin, acheter les croquettes pour le chat.
La salade et des endives et des biscottes.
Parce que mon père, demain, il se fait opérer. Donc il faut que je lui fasse prendre sa douche avec de l'éosine. Préparer mon sac.
Renouvellement du titre de séjour.
Mardi superformeur.
Faire des économies. Acheter vêtements de pétanque.
Revoir concours.
Appeler maman Sita Samia. Lire Marie-Hélène Lafont.
Trouver un crédit.
Aller courir au stade.
Envoyer de l'argent en Afrique.
Arrêtez de l'aide.
Loyer papy cuisine.
Rendez-vous chez dentiste.
Récupérer.
Organiser.
Repasser.
Préparer.
Acheter. Préparer.
Concours d'assistants territoriales, sociaux, éducatifs.
Oui, c'est... Alors... Du coup, Superformer, c'était un projet en fait, qui a eu lieu sur plusieurs mois et qui rassemblait en fait, un groupe d'une quinzaine de personnes composées d'habitants de Noisy-le-Sec, d'assistantes sociales et de bénévoles en fait, d'associations noiséennes pour travailler avec l'artiste Violaine Lechu donc, pendant plusieurs mois à la construction de cette performance que vous venez de voir, qui s'appelait Superformer 2. Voilà, je vais peut-être vous mettre voilà, cette image. Qui partait, en fait, Violaine Lechu est partie de l'idée que chacun dans son quotidien pouvait être en fait un super-héros, ou en tout cas un super-former. Et l'idée était de partir en fait des savoir-faire de chacun, de ses compétences, de les mettre en commun, de mettre en commun aussi des bribes de vie, des récits de vie pour créer une œuvre collective. Donc ce début de film le montre bien, comment chacun en fait... presque au début du process et seul, individuel, et comment finalement, grâce au processus artistique et à cette expérience partagée, on arrive à créer un cœur, un récit finalement collectif. Et donc là, finalement, ces récits, ces paroles des habitants, des participants, puisque là, du coup, on ne peut plus parler de visiteurs, mais vraiment de participants, d'acteurs, vont créer une pièce, une œuvre artistique, donc performative, donc qui a eu lieu une fois, je dirais, en collectif. Mais de ces entretiens, elle a tiré des portraits sonores de chaque personne et des portraits vidéo. Donc là, vous en voyez un tel qu'il était montré, du coup, dans tes mains, dans mes chaussures, 3. 3 sur 3. Il y avait également une édition que vous pourrez voir, que j'ai apportée là, si vous avez envie de la feuilleter. Voilà. Et aussi des pièces sonores qui ont été présentées dans un autre contexte que celui de la galerie, et je trouve ça particulièrement intéressant. Chaque casque, en fait, est une voix d'un de ses habitants, un portrait sonore. Et cette pièce de Violaine Lechu était présentée dans un autre contexte, puisqu'il s'agissait de Jeunes Créations, qui est un festival d'une exposition qui montre, comme son nom l'indique, plutôt des jeunes artistes. Et Violaine, pour le vernissage de cette manifestation, avait convié les superformeurs qui le souhaitaient, à venir refaire leur pièce, qui s'apparente plus à ce que Émilie vous a montré et ce que vous avez pu apercevoir, plutôt des solos, finalement, que l'artiste a écrit pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, souvent, dans les projets où il y a une parole comme ça, ou une œuvre... collective, faite avec des publics, elle peut être parfois passée comme un projet d'action culturelle, ou en tout cas, il y a parfois des hiérarchies qui s'installent. Et là, ce n'était pas le cas, puisque l'artiste a vraiment pu... Il y a aussi un troisième volet de ce superformer, qui est une superformance de l'artiste Violaine Le Chu elle-même, qu'elle présente et qui fait partie, je dirais, de son répertoire. Si j'ai encore une minute, je voulais juste aussi, enfin, évidemment, parler... De cette position finalement d'éthique, de quand là on devient plus vraiment médiateur dans ce type de projet, puisque on a un rôle de coordinateur, mais pour que le projet réussisse et ait toute sa place, en fait, finalement on devient soi-même participant et on partage les risques du groupe, comme vous avez pu le voir. Il y a une espèce de mise à nu et où là, finalement, de la même façon, on ne peut pas demander en fait, aux personnes de nous raconter leur vie, de partager des choses fortes sans soi-même s'impliquer dans le processus et de partager non seulement une expérience artistique, mais aussi une expérience humaine. Et je vais finir sur ces mots.